Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, c'est toujours Christine Darboux, l'artiste amoureuse des arts et des artistes, pour vous servir avec plaisir, avec désir, sans trop de délire pourtant. Et oui, je reste sérieuse pour vous parler de ce sujet complexe, mais ô combien passionnant. Aujourd'hui, et après le petit panoramique artistique que j'ai déroulé jusqu'à présent, où j'ai essayé de vous présenter ce qu'était l'art, notamment les arts plastiques, et comment il évoluait dans le temps avec interaction entre artistes et société, nous allons donc aujourd'hui nous immerger davantage dans l'art de notre époque, qui ne s'éloigne guère encore des courants de la fin du XXe siècle. Alors nous nous intéresserons toujours plus particulièrement aux arts plastiques visuels et dans ce sens, nous aborderons cette catégorie dans laquelle se retrouve la peinture, la sculpture, ce type d'art qui s'appuie sur l'utilisation de connaissances, de savoir-faire traditionnels bien sûr. Mais nous nous intéresserons aussi à cette seconde catégorie qui est l'art dit contemporain, moderne, celui qui privilégie les concepts avec installation, moyens techniques, vidéos, etc. Alors je dis contemporain et moderne, mais c'est faux, parce qu'on a tendance à oublier que la première catégorie en fait partie aussi, étant donné que les artistes sont vivants et créent actuellement ou s'inscrivent, s'ils sont décédés, dans notre époque. Et d'ailleurs, l'art né après la Seconde Guerre mondiale, de par son éclectisme et sa diversité, se regroupe sous le même qualificatif de post-moderne. C'est pour cela que je préfère parler pour cette seconde catégorie d'un art à la mode, ou qui reste à la mode, même s'il actualise ou perpétue un art né dans les années 60-70, dans la lignée principalement des conceptuels. Bon, mais nous allons en reparler plus avant dans les émissions qui suivent. Alors peut-être que ma classification est un peu simpliste, mais je l'emploie surtout comme un balisage pour vous permettre de vous repérer dans ce foisonnement artistique qui risque de nous embrouiller. Alors en ce qui concerne le body art, le street art, abordé les deux émissions précédentes, ce sont des formes d'art toujours en cours. Que ce soit l'une des branches du body art comme le body painting, peinture sur le corps, ou de celle du street art. Et je vous ai démontré précédemment que ces courants révélaient et révèlent toujours des qualités graphiques, d'adresse, d'habileté manuelle, ce qui n'empêche aucunement les idées pertinentes et la contestation. Et ces formes d'art, en outre, savent également se teinter d'humour, de poésie, de force, voire de beauté. Alors ceci dit, il est vrai qu'en règle générale, nous retrouvons actuellement les nombreux courants inscrits dans la continuité de ceux que je vous ai présentés les fois précédentes. Alors vous vous souvenez que le XXe siècle était une période extrêmement prolifique en mouvements artistiques divers pour différentes raisons. Alors c'est dû en partie aux grands changements subis par nos sociétés, déjà au XIXe siècle et sur bien des plans, entre autres avec l'avènement des nouvelles techniques, l'apparition de nouveaux besoins et de nouvelles formes d'existence au sein de nos sociétés modernes, nées du capitalisme pour s'ouvrir sur la société de consommation, etc. Eh bien, leurs héritiers sont présents au XXIe siècle, à la fois pour renouveler une forme d'expressivité ou alors perpétuer, parfois avec plus ou moins de rabâchage et donc aussi d'insipidité, ce qui s'affirmait dans les décennies précédentes pour exprimer désir de renouvellement, contestation ou rébellion. Alors je vais faire un petit tour d'horizon de l'art de ce début du XXIe siècle, autant celui qui s'appuie davantage sur la tradition, la transmission, comme celui qui se revendique de la modernité, de l'innovation, de la réforme, voire d'une révolution artistique. Et nous allons commencer par faire un petit tour là où j'ai mis les pieds à l'aube de ce XXIe siècle, puisque ça l'était en tant qu'exposant dans l'un des plus grands salons de Paris, créé pour réunir les plus prestigieux salons parisiens qui existent depuis quelques décennies, si ce n'est depuis quelques siècles. Et ce salon avait lieu au Grand Palais en 2006. Eh bien, bon, ce salon, ce grand salon parisien avec profusion d'œuvres d'artistes nationaux, nommé Art en Capitale, était organisé de manière à présenter les différents mouvements du XXIe siècle, notamment ceux qui représentent les artistes sachant encore s'exprimer avec un pinceau ou se servir d'outils. Alors, c'est donc un salon plus axé quand même sur les héritiers de la tradition, même s'il est ouvert à la modernité et au renouvellement, les deux aspects ne sont pas antinomiques. Alors intervenaient les traditionnels peintres, sculpteurs, graveurs, peu importe ce qu'ils livrent à notre regard et ce qu'ils expriment, et à ceux-ci se sont joints les photographes. Vous retrouviez dans ce salon les figuratifs avec entre autres les expressionnistes. L'artiste porte sur sa toile les émotions, ses émotions hein, comme ses angoisses en déformant ses personnages. Vous retrouviez les réalistes avec une peinture, comme son nom l'indique, préoccupée de restituer la réalité quotidienne et sociale. Vous retrouviez la figuration libre qui, avec sa liberté d'expression, joue avec les formes et les couleurs sur la toile. Vous retrouviez les abstraits. Et je rappelle de quoi il s'agit. Normalement, tout le monde le sait, surtout si vous avez suivi les émissions précédentes. La peinture abstraite fait abstraction, comme son nom l'indique, d'une forme reconnaissable, comme étant une personne, un animal ou un objet, contrairement donc au figuratif. Donc l'abstrait propose des formes et des couleurs ou des formes colorées que l'observateur interprète à sa manière selon son ressenti ou ses goûts esthétiques. Bon, en règle générale c'est cela, mais je pense aussi qu'il faut comprendre pour certaines œuvres, par exemple pour l'art informel qui utilise aussi parfois la peinture. Et là, il faut quand même une explication. Et j'avais expliqué dans l'une des émissions précédentes que c'était un art de l'après-Seconde Guerre mondiale et donc un art de l'improvisation et de la déstructuration en réponse aux absurdités de ces périodes tourmentées. Il faut dire concernant l'art abstrait et donc pour la peinture abstraite que cet art ouvre de nombreuses perspectives à explorer et à accueillir selon ses sensibilités avec un esprit curieux et ouvert. Et je résume là grossièrement en partie partie des courants abordés dans les émissions précédentes. Mais c'est pour vous montrer qu'il existe une continuité à notre époque. Aussi, je vous invite à écouter ces émissions qui sont créées pour vous aider à comprendre ce qui se passe aussi maintenant. Alors, dans ce salon, il y avait également une section petit format, et cela concerne les formats réduits et donc les peintures miniatures. Les sculpteurs étaient présents également, les figuratifs comme les abstraits, ceux qui sculptent sur bois, ceux qui sculptent sur pierre, les modeleurs de la terre comme moi, ceux qui travaillent les métaux ou qui combinent différents matériaux, etc. On peut dire que ce salon de 2006 rassemblait un panel de courants artistiques présentés à cette époque par les salons français, notamment parisiens bien connus. Et ces salons procédaient à leur classification pour répertorier leurs artistes. Alors je rappelle le nom de ces salons réunis à Art en Capitale. Alors, vous aviez le Salon des artistes français, qui est l'héritage d'un salon créé par Colbert en 1667 pour le roi Louis XIV, où les traditions de savoir-faire technique sont actualisées. Le Salon des indépendants, alors lui correspond à l'état d'esprit rebelle de la fin du XIXe siècle, puisqu'il découle des velléités de renouveau des impressionnistes en but à un académisme, et surtout à un conformisme devenu sclérosant. Et leur maxime est toujours sans jury ni récompense. Ceci dit, malgré le renouvellement de leur expression, je rappelle qu'en leur temps, les impressionnistes étaient des gens qui savaient peindre et dessiner, même s'ils ont cherché à oublier quelque peu leur savoir. Mais peut-être que ce savoir leur ont permis d'expérimenter autre chose, de dépasser l'académisme de l'époque, et ils ont réussi à donner un sens, un relief nouveau au monde de l'art, et c'est un peu mon avis. Alors pour ma part, j'aime beaucoup les impressionnistes. Je trouve que c'est une peinture qui sollicite en soi tout un panel d'impressions colorées, charnelles, vivantes, mais c'est mon ressenti. Et pour cela, c'est pour cela d'ailleurs que j'invite toujours quiconque à expérimenter sa rencontre avec un tableau, avec un artiste, pour stimuler chez lui une émotion et une réflexion. Donc je parlerai dans une prochaine émission de la relation entre le public et l'œuvre. Bon, j'ai envie de m'arrêter un petit peu en compagnie des impressionnistes, un petit retour en arrière comme un hommage à ces peintres qui ont eu envie de renouveler la peinture et qui sont sortis des sentiers battus. Et pour ce faire, eh bien, je vous propose une chanson d'Yves Duteil nommée Regard impressionniste.
Il y avait au jardin des bouquets de lumière. Le soleil traversait les couleurs du sous-bois. Au bord du bel étang, un pêcheur solitaire s'endormait doucement, sa canne entre les bras. C'était un jour d'été léger comme un dimanche. L'air était transparent sous le feuillage clair. Le bonheur était là, paisible, entre les branches et les reflets mouvants des arbres et des fougères. Le soleil inondait le bord de la rivière. Des couples enlacés dansaient sur le ponton, près des tables encombrées de bouteilles et de verres. Des guirlandes accrochées croulaient sous les balcons. Une femme debout regardait quelque chose, une lueur magique au fond de son regard. Son bras disparaissait sous un bouquet de roses. Elle était appuyée sur un divan bizarre. C'était au grand palais, sur des toiles de maître. Il y avait un Monet et deux ou trois Renoirs. Le cœur dans les tableaux, je me sentais renaître. Et en fermant les yeux, je pouvais les revoir. Le monde a la beauté du regard qu'on y pose. Le jardin de Monet, le soleil de Renoir ne sont que le reflet de leur vision des choses, dont chacun d'entre nous peut être le miroir. La vie nous peint les jours au hasard du voyage, en amour, en douleur ou en mélancolie. C'est un peu de ce temps qu'on laisse en héritage, enrichi du regard qu'on a posé sur lui.
Après ce petit voyage en arrière, revenons à notre salon Art en Capitale qui a débuté en 2006 et a eu lieu au Grand Palais à Paris dans un cadre séduisant, vestige d'un passé plutôt prestigieux, à la pointe de la modernité de l'époque, puisque ce bâtiment, comme le petit palais situé en face, furent créés pour l'exposition universelle de 1900. Alors, j'ajoute que le chantier, pour sa construction, a duré 3 ans et qu'il a mobilisé de nombreuses énergies et de la créativité pour en faire ce que nous en connaissons tous, hein, avec ce magnifique dôme d'acier et de verre par lequel se déverse la lumière du jour. Et depuis, le Grand Palais a accueilli bien des expositions artistiques, culturelles, entre autres événements. Alors pour en revenir à Aran Capital, ce salon se déroule encore chaque année au Grand Palais et je crois qu'il accueille un autre salon et qu'il a ouvert ses portes sur l'étranger. Bref, c'est une actualité artistique nationale à suivre si cela vous intéresse. Mais je n'ai pas fini d'énumérer les autres salons. Alors, outre le salon des artistes français et des indépendants, vous aviez également le salon Comparaison, qui a été fondé en 1956 sur le principe de la confrontation entre art figuratif et art abstrait, et les diverses formes d'expression, peinture, sculpture et même installation. Alors, c'est un salon qui s'est voulu et se veut toujours plus ouvert à la modernité, et notamment au courant de l'après-Seconde Guerre mondiale et de l'avant-garde, car il a accueilli, entre autres artistes dont je vous ai parlé, Yves Klein, Tinguely, Rancillac ou Antonio Tapies. Alors, vous aviez aussi la Société des Beaux-Arts qui était représentée, et celle-ci fut fondée en 1860 par les peintres Meissonnier et Puvis de Chavannes. Et cette société est ouverte à tout créateur avec un soutien permanent aux expressions contemporaines. Bon, évidemment, peut-être pas tous ces artistes, mais une bonne partie d'entre eux se reposent encore sur la tradition du savoir-faire et de l'apprentissage de la peinture, du dessin et des techniques liées à la sculpture. Et en général, ceux-ci partagent le fait de n'être pas soutenus ni représentés ou peu par l'État et donc par les institutions d'État. Et pourtant, leur nombre représente une partie non négligeable de la scène artistique. Et ces artistes-là, en général, ne doivent compter que sur eux-mêmes pour valoriser leur travail. Moi, j'en parle en connaissance de cause. Alors, on peut se poser la question du pourquoi. Eh bien, parce que l'institution, par l'intermédiaire des DRAC, c'est-à-dire les Directions Régionales des Affaires Culturelles, et les FRAC, les Fonds Régionaux d'Art Contemporain, sélectionne et privilégie davantage ceux qu'ils considèrent comme les véritables artistes d'aujourd'hui, ceux qui en font des artistes à la mode, et ce sont en priorité les successeurs du pop art, des conceptuels et minimalistes, du moins de ceux dont l'esprit rebelle et provocateur à leur époque leur a permis de totalement révolutionner l'idée que l'on se fait de l'art et de l'artiste. Et c'est un constat qui prête encore et toujours à polémique dans le milieu artistique. Alors il est vrai que depuis quelques générations, nous connaissions l'artiste qui, pour évoluer dans son art, s'appuyait sur l'apprentissage de techniques, s'attachait à développer son habileté. Bref, il s'agissait d'acquérir tout un ensemble de compétences nécessaires pour soutenir des dispositions en général naturelles. Et ce processus conduisait à un travail régulier et assidu, de manière à produire une œuvre expressive, voire esthétique, selon des canons de beauté reconnus par la société de l'époque, ou pas reconnus d'ailleurs, en rapport avec d'autres critères. En tout cas, pour certains de ces artistes, c'est toujours d'actualité qu'un objet, une peinture, ont encore le droit, si ce n'est parfois un devoir, d'être harmonieux, puisque la beauté est porteur de sens lorsqu'il s'agit de toucher l'âme et de l'élever au-dessus du banal, voire du médiocre. Et en général, l'œuvre se suffisait à elle-même sans discours superflu pour souligner sa pertinence. Et s'il y avait discours, eh bien, celui servait d'appoint dans des situations particulières. Donc cette forme d'art, pour bien des artistes à la mode, c'est l'art du passé, dépassé, obsolète, parce que l'état d'esprit, comme les moyens, sont proches pour la plupart de ceux, de ceux de l'artisan qui peaufine sa technique et avance en travaillant avec régularité. Alors l'art à la mode, je ne sais pas trop comment dire autrement, peut-être l'art officiel, est une forme d'art qui s'appuie un petit peu sur une inversion de ces valeurs citées précédemment. Ceci dit, en art, vous rencontrez multiples variantes, car toute œuvre se veut en général singulière, comme l'est tout artiste, ainsi que vous l'êtes vous-même. Et donc, l'œuvre exprime une qualité et une vérité qui lui est propre, qu'elle s'inscrive dans le courant d'une époque où survole le temps. Bon, dans tous ces mouvements, ben, vous trouverez une légitimité foncière, hein, dans le sens où l'œuvre apporte une ouverture ou spirituelle, ou mentale, ou émotionnelle, ou affective. Et chaque mouvement et courant s'adresse plus ou moins à une fonction que je viens d'énumérer, parce que l'art est une histoire humaine et s'adresse à notre humanité dans sa globalité. Bon, il est vrai que nous arrivons au XXIe siècle et que pour plus de clarté, je suis obligée de dégrossir. C'est ainsi que ressortent ces deux catégories principales, l'une issue d'une tradition artistique, même si elle se renouvelle au cours du temps, et l'autre révolutionnaire qui vous fait prendre un virage à 190 degrés pour comprendre et vous adapter. Alors bien évidemment, tout ceci reste sujet à polémique dans le monde de l'art et l'objet de débats complexes et animés que j'essaierai de vous transmettre dans des émissions prochaines. Alors donc ces artistes à la mode évoluent et s'appuient eux sur des artistes comme notamment Duchamp qui lui prend un objet du quotidien préfabriqué, le détourne de sa fonction première comme il l'a fait avec un urinoir, le signe, le pose dans un contexte artistique et par cet acte même, il l'impose comme œuvre d'art. Alors ce procédé s'appelle le ready-made, le tout fait, et c'est cela qu'a inventé Duchamp dans le contexte de protestation particulier qui était le sien à son époque, lié possiblement au choc de l'après-guerre, au changement de vie provoqué par la modernité qui transforme les mentalités, etc. Aussi, Duchamp provoque-t-il, il se moque, il ironise dans son contexte social et fait envisager un rapport à l'art différent. Il oblige le spectateur à transformer son regard, à se positionner différemment, autant vis-à-vis de l'art que de l'artiste. Alors peut-être nous faut-il prendre position, ou bien accepter de garder une continuité dans la longue tradition artistique, malgré également, enfin qui englobe également des transformations et des renouvellements, ou bien accréditer la démarche de Duchamp de manière à rompre catégoriquement, et cette posture met à terre tous les fondements de l'art. Alors apparemment les deux courants coexistent, s'entrechoquent et parfois s'en mêlent en mobilisant des moyens et des énergies différentes. Peut-être que la voie du juste milieu, comme le professe la philosophie chinoise, pour garder l'équilibre et ouverture, est aussi appliqué dans le monde de l'art. Et moi, j'ai pris le parti de ne pas rejeter en bloc ce qui m'est présenté avant d'en avoir acquis une compréhension, une connaissance. Et je rappelle que connaissance signifie naître avec, hein, c'est un accompagnement, ce qui veut dire que mon adhésion n'est pas automatique, que je fais appel à toute mon intériorité, et mobilise ce qui doit l'être pour la forme d'art ou création qui m'est proposée, qu'elle soit traditionnelle, contemporaine, moderne, à la mode, etc. Alors globalement, ce qui gêne ou ce qui moi me gêne, quelle que soit la forme d'art, c'est qu'à partir d'une innovation ou de l'émergence d'un courant artistique particulier avec des expressions ou des œuvres parlantes, pertinentes, voire percutantes en fonction des différents facteurs personnels, socioculturels, etc., nous tombons toujours dans des exagérations avec surproduction, surabondance insignifiante jusqu'à l'étouffement, ce qui fait que nous risquons de nous perdre et de manquer nos meilleurs rendez-vous avec l'art et les artistes créatifs inspirés, etc. Mais l'art est peut-être maintenant aussi à l'image de notre époque où la quantité règne et prend le pas sur la qualité. En tout cas, il est cocasse de voir que l'art d'aujourd'hui, à la mode, et la mode par nature c'est l'éphémère, eh bien cet art dure plus d'un demi-siècle. En tout cas, et pour en revenir à Duchamp, le fait est qu'il a été pris au sérieux par le monde de l'art, et donc peut-être plus que lui-même ne s'est pris au sérieux d'ailleurs. Et le cas Duchamp est encore sujet à polémique, et chacun y va de son avis, les critiques spécialistes de l'art, les philosophes, etc. Et là, nous allons refaire une petite pause musicale pour vous permettre de digérer déjà ce que je viens de dire. Et j'ai choisi de rester avec les peintres et je vous propose d'écouter une chanteuse nommée Francesca Soleville qui nous chante « Le peintre ».
Connaissez-vous le cri du peintre ? Ce chant sourd né de la contrainte, quand le moindre ciel bleu l'éreinte, il aborde la toile enceinte, prête d'accoucher de ses craintes. Entendez-vous le cri du peintre? Il tâtonne, cherche l'empreinte, puis s'enflamme à guetter l'étreinte de la gitane en demi-teinte nue qui pose en offrande sainte. Écoutez bien le cri du peintre, sa lampe de chevet éteinte, là où la nature est défunte, traquant dans le verre de l'absinthe le contour d'une coloquinte. Imprégnez-vous du cri du peintre, de l'homme pendu à son cintre, du pillard qui ose l'enfreinte, qui fait surgir l'eau de la plainte, fait de la putain une sainte. Barbouillez-vous du cri du peintre, pour sa cible jamais atteinte, l'éclat d'un raisin de Corinthe, l'osier, l'eau, le parquet, la plainte, l'allaitement du jour qui pointe. Picassez-vous du cri du peintre, le cri de la craie qui veut vaincre, et la laine, la toux, la quinte, la quête de tout et l'enceinte qui emmure les murmures du peintre. Connaissez-vous le cri du peintre?
Bien, mais j'espère comme moi que vous avez apprécié ce joli portrait de peintre des pins. On va dire cela par Francesca Soleville. Nous allons maintenant nous quitter. La prochaine fois, j'essaierai plus précisément de vous faire rentrer dans l'esprit de l'art contemporain, l'art officiel ou à la mode. Je tenterai de vous montrer quels sont les états d'esprit qui permettent aujourd'hui la propagation de cet art contemporain. Je vous présenterai quelques portraits d'artistes renommés pour illustrer mes présentations. Mais en attendant, eh bien, je vous dis au revoir en espérant que mes explications vous ont encore éclairé cette fois-ci.